Alors, je repense. Ce matin, on va voyager ensemble. Qui a envie de voyager? On va aller dans le désert et pas à la mer. Programme Nova, le titre de ce message, c'est croire l'impossible pour vivre l'incroyable. Croire l'impossible pour vivre l'incroyable. C'est le thème que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin. Pendant la suite des rites des Hébreux, en particulier de l'épisode de la traversée de la mer des roseaux, pour regarder aux enseignements, aux principes que Dieu veut que nous tirions, afin de saisir et d'entrer dans le miraculeux qu'il a en réserve pour nous, son peuple. Tout notre passage se situe dans Exode 14, et le contexte, donc vous le connaissez, puis pour ceux qui ne le connaissent pas, on va l'expliquer. Le peuple hébreu a passé 430 ans. En captivité en Égypte. Et à un moment donné, Dieu a vu la souffrance de son peuple qui en était réduit à l'esclavage. Et Dieu suscite un libérateur pour son peuple en la personne de Moïse. Et Dieu doit manifester sa toute-puissance et sa suprématie sur tous les faux dieux de l'Égypte en manifestant une multitude de signes miraculeux qu'on appelle les plaies d'Égypte. Et au travers de ces plaies, qui va frapper l'Égypte et le Pharaon, Pharaon va décider de laisser partir le peuple hébreu de la captivité. Et c'est suite à ce départ, causé par la dernière plaie où l'ange exterminateur a frappé le premier-né de toute l'Égypte, que Moïse et le peuple sortent et sont conduits entre le désert et la mer. On va commencer notre tour dans Exode 14, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites. Ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer. Le pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du pharaon et il les poursuivra. Mais le pharaon et toute son armée serviront à faire éclater la gloire. Et les Égyptiens, sauront que je suis l'Éternel. Tout se passera ainsi. Premier point que je soulevais dans ce passage, c'est que c'est Dieu qui détermine où son secours, où son miracle, où sa délivrance prend place. C'est Dieu qui détermine le lieu et l'endroit où le miracle prend place. Dès le départ, nous voyons dans ce passage que Dieu donne des instructions précises à Moïse. Il situe l'endroit exact où le peuple va devoir se tenir pour expérimenter la délivrance. Il est intéressant de noter que c'est dans un lieu qui, humainement, est une prison que Dieu veut manifester sa gloire. Le texte nous dit que c'est face à la mer. Et bien plus, on apprend que même Pharaon souligne qu'à cet endroit, le peuple est prisonnier du désert et le peuple est perdu. Les Pharaons viennent, ils sont perdus à cet endroit-là. Et Dieu demande de camper face à la ville de Pi. Et ce nom de ville signifie la bouche des excavations. Qu'est-ce que c'est une excavation? C'est quand on creuse un trou. C'est comme si Dieu demandait au peuple hébreu de camper face à sa tombe, face au trou creusé. C'est comme si Dieu les envoyait dans un lieu qu'ils ont creusé, comme un lieu de tombe, comme un lieu de mort. Et c'est certainement ce que Pharaon est en train de penser. Il a dit, à cet endroit, il faut creuser. Il s'est dit que les Israélites étaient perdus en arrivant ici. Je crois qu'il est intéressant de noter plusieurs points. Déjà, c'est que pour vivre le miraculeux, pour vivre le surnaturel de Dieu, il faut être prêt à vivre l'inconfort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais généralement, tous on veut voir des miracles dans nos vies. Il y a des gens qui ne veulent pas voir le miracle ici. Personne. Personne n'a pas envie de vivre le miracle dans sa vie. Mais par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est que notre confort ne soit enlevé. Souvent, on veut vivre le miraculeux, mais on ne veut pas que notre zone de confort, elle nous soit enlevée. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de victoire sans bataille. Il ne peut pas y avoir de victoire sans combat. Et la bonne nouvelle en ce passant, c'est que ce n'est pas eux qui vont la combattre, puisque c'est Dieu qui combat pour eux. Par contre, ils doivent être sur le lieu du champ de bataille. Ils doivent être à l'endroit où la bataille prend place. plupart du temps, on demande des miracles à Dieu, mais selon nos plans. On demande des miracles à Dieu selon nos plans, selon les choses que l'on a pensées, qu'on a décidées. Il faut que ça se passe comme ça, mais je veux que ça se passe comme ça. Et c'est parfois, je vous montre que c'est Dieu qui détermine et c'est Dieu qui conduit où et comment les miracles doivent prendre place dans nos vies, doivent prendre place dans nos situations. Je crois que nous avons tous besoin d'être à l'écoute de Dieu afin d'être conduits, afin d'être dirigés par lui dans ce qu'il a préparé d'avance pour nous. On arrive à notre deuxième point. Le secours de Dieu est toujours précédé d'un défaillement de l'ennemi. Le secours miraculeux, l'intervention de Dieu est toujours précédé d'un défaillement de l'ennemi. On continue la lecture au verset 5. On annonçait au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent : qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ? On pourrait dire aussi grand, dont nous ne serons plus les esclaves. Et Pharaon appela son peuple, lui prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars de lutte et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis les mains levées. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars du Pharaon, les cavaliers de son armée les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. Les théologiens expliquent que la plupart du temps, on comptait 10 à 150 chars par troupe. 600 était donc un nombre impressionnant. Et il ne représentait que la troupe d'élite. Il n'y avait que les élites qui étaient déjà dans 600 pour qu'on ait dit qu'il y avait tous les chars d'Égypte en plus. Donc là, il y avait l'armée principale, les proches, on va dire, du pharaon, sa garde rapprochée. Toute cette garde était là. Et ce qu'on voit ici, c'est que Pharaon fait tout pour entraver ce que Dieu veut manifester pour son peuple. Et là, il déploie des efforts considérables. On voit ici la puissance de l'aveuglement qui frappe l'ennemi, qui bien qu'il faut qu'il ait vaincu alors qu'ils ont subi toutes sortes de plaies, que les premiers de l'Égypte sont morts, ils poursuivent dans leur entêtement de vouloir garder en captivité le peuple hébreu. Bien qu'il faut qu'il ait vaincu, bien qu'il faut qu'il ait des lourdes pertes, il continue de foncer dans son idée. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Lorsque nous décidons de vivre et suivre Jésus au quotidien, dans la voie qu'il a tracée pour nous, Satan va tout faire pour chercher à nous déstabiliser, pour nous faire peur, afin de nous faire revenir sur son giron. La Bible dit que notre ennemi est vaincu, que Jésus a dépouillé sa puissance par la croix, mais il cherche à tout faire pour faire chuter, pour faire tomber le peuple de Dieu, pour détourner le peuple de Dieu de sa confiance en Jésus. Vous savez, je dis souvent de vous baptiser que il ne faut pas croire qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus, une fois que tu as été plongé dans les eaux du baptême, tu frottes sur un nuage et tout se passe bien. Ou tu crois que tu n'es plus atteint par rien, qu'il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton rosé dans ta tête et puis je plane et tout va bien. La vie n'est pas à nous faire tranquille, sauf dans le film. Je dis souvent que lorsque nous sommes engagés et déterminés à vivre pour Jésus, nous sommes au cœur d'une bataille, une bataille que Dieu mène, et une bataille dont nous sommes victorieux parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Mais l'ennemi va se déchaîner pour nous faire tomber de la position où nous sommes. La Bible dit que nous sommes assis dans le milieu céleste en Jésus-Christ. L'ennemi va tout faire pour nous faire soir, pour nous faire tomber de cette position où Jésus nous a placés. Et c'est ce qui nous amène à notre prochain point. On va parler de comment Satan utilise des tactiques pour nous faire tomber. Troisième point, c'est ça, le doute et la crainte sont les armes privilégiées de notre ennemi. On poursuit la lecture, versets 10 à 12. Le pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière. Ils éprouvaient une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse : est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves choix de cette femme qui préfère être esclave que de mourir dans le désert, qui préfère être esclave que d'être conduit par Dieu. Maître Leroux disait que le pire ennemi de nos visions, le pire ennemi de ce que Dieu peut déposer dans nos cœurs, c'est la vue de ce qui se passe pour Dieu. Le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Lorsque les Hébreux virent la force de frappe de Pharaon derrière eux, lorsqu'ils virent que face à eux, il y avait la mer et qu'ils étaient coincés, ils se sont dit là avec lui. Ils se sentent à ce moment-là pris dans un étau. Ils ne peuvent plus ni avancer, ni reculer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté ça dans votre vie chrétienne, mais ça m'est déjà arrivé de rester là, qui demande la vie. Et puis tout d'un coup, je suis pris par la peur et je me dis maintenant, je ne peux plus avancer. Je ne peux plus reculer. J'ai quitté plein de choses pour toi, puis maintenant, j'aimerais faire ma carrière, mais je ne peux pas, je suis coincé. Des fois, on est assailli par ce genre de pensée. Et on a peur. On n'est pas réalisé, qu'est-ce qui se passe, je suis coincé. Je suis bloqué la face à cette situation et je suis coincé de toutes parts. Alors, on voit que le peuple a un bon effet, c'est qu'il s'adresse à l'Éternel, mais dans le même temps, il commence à critiquer Moïse. Il crie à l'Éternel, mais il critique l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a qualifié pour les conduire. Ils vont commencer à dire qu'ils étaient mieux en captivité qu'en liberté. Vous savez, des fois, on est un peu comme ça aussi, c'est qu'on préfère être dans une cellule dorée sécurisante que de se lancer dans le défi que Dieu a placé devant nous. Que d'affronter les défis, que de vivre la liberté que Dieu nous propose. On est bien, des fois, dans nos zones. On ne connaît plus qu'on est coincé dedans dans les dents parce qu'on a des repères. Mais la vie de la foi, c'est faire confiance aveugle en Dieu. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, la foi. C'est-à-dire, c'est de faire confiance, de s'appuyer sur Dieu, coûte que coûte, même si ce qu'on ne voit pas qui est en train de se passer. Et parfois, on est comme ça, on cherche plutôt la sécurité de cette zone, de cette prison dans laquelle on est, qui peut dorer. Jésus nous rappellera que le suivre, c'est de dépendre de lui que pour toute zone de confort et de sécurité. C'est ce qu'il dira à un homme qui voulait le suivre dans les pièces, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. La recherche de confort et de sécurité dans la vie chrétienne n'est pas compatible avec la marche par la foi. La recherche de zones de sécurité, de vouloir servir Dieu dans une certaine zone, n'est pas compatible avec la marche par la foi à laquelle Jésus nous appelle. Vous connaissez ce passage qui dit Philippiens 4:12, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a cette notion de ne dépendre que de Jésus et de lui seul. Satan, il sait exactement comment il fonctionne. Il sait qu'on agit toujours en fonction de ce que l'on croit, je vous l'ai déjà partagé. Il sait qu'une fois que le doute et que les peurs prennent place en nous, il sait qu'on a une tendance à vouloir faire marche arrière. Peut-être à regretter le passé. Finalement, on a dit que l'esclavage, c'était bien. Ils ont rendu compte que là où ils étaient fouettés, où ils étaient battus. Et là, dans leur tête, ils disent on était tellement bien là-bas. Vous savez, des fois, on est un peu comme ça, enfin, je ne sais pas où, mais moi, des fois, on est en train de relever des trucs, on était complètement captifs. Et là, il y a un problème. Et lui, c'est comment on fonctionne. Vous savez, la Bible, elle compare Satan à un lion rugissant, qui cherche qui veut le dévorer. Comment ça se passe dans la savane? Lorsqu'un lion veut savoir où sont cachées les gazelles, il va se mettre à rugir. Il va se mettre à rugir parce que le rugissement du lion va paralyser les gazelles, va les rendre un peu, les faire psychoter, et elles vont commencer à courir partout comme des folles. Et l'ennemi ne l'a peut-être pas identifié, mais le fait qu'il rugisse et qu'elle réagisse à son rugissement, c'est qu'il les identifie et qu'il peut les croquer. Vous savez, si elles étaient juste occupées sur cette position, cachées là où elles étaient, en n'écoutant pas le rugissement du lion, elles auraient eu la vie sauve. Et dès qu'elles s'agitent, dès que l'ennemi commence à rugir, alors elles se font croquer. Le fait qu'elles se mettent en mouvement suite au rugissement fait qu'elles se font bouffer. Vous savez qu'un rugissement du lion, apparemment, j'ai vu ça sur Internet ce matin, peut être entendu à 8 km. Un rugissement du lion, dans la savane, peut être entendu à 8 km. Donc, parfois, on est un peu comme ces gazelles. À prendre peur face au rugissement autour de nous. Alors, on dit que le rugissement, c'est 8 km, mais ce n'est pas pour vous. Et des fois, j'ai l'impression que la promesse de Dieu, elle est bien plus silencieuse que l'ennemi quand il se déchaîne autour de moi. Quand il vient avec ses voix pour me faire douter, pour que je prenne peur et que je commence à réfléchir à cette peur que j'ai en moi. Il commence à faire du bruit, il cherche à me déstabiliser au sens où on se met à courir dans tous les sens et finalement pour me tenir et me croquer. Ça peut être pris de panique comme les Hébreux. On peut être aujourd'hui, je ne sais pas comment vous êtes venus, mais d'être dans cette situation, j'ai l'impression d'être dans un étau, tout coincé. Mais une bonne nouvelle ce matin, c'est que l'étau dans lequel tu es, c'est aussi l'endroit où Dieu veut manifester sa grâce. C'est là où Dieu veut manifester sa grâce dans ta vie. Quatrième point ce matin, c'est que le secours de Dieu s'expérimente dans le calme et la confiance. Puis la lecture, Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel, par la bouche de Moïse, invite le peuple à faire silence. Vous savez ce qui se passe souvent, c'est que quand on commence à être assailli par des craintes, la crainte, c'est quelque chose qui se communique assez facilement. Il y a des gens, c'est des champions de communication de crainte. Ils sont terrorisés par des situations, alors ils viennent partout, ils sont agités, puis ils viennent communiquer leur stress. Et ça déteint certains gens. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a des, malheureusement, quand il y a des attentats, ce genre de choses, ou quand il y a des mouvements de panique, il y a des mouvements de foule, et il y a des gens qui se retrouvent piétinés, qui meurent à cause de mouvements de panique. Donc, quand il y a des situations de communication, généralement, il y a un plan de secours pour évacuer les gens. Mais quand il se passe un truc, les gens pris par leur panique, ils se bousculent les pattes et puis il y a des gens qui se font piétiner. Ce que nous dit ce passage, ce que nous dit Dieu ce matin, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. 365 fois dans la Bible, il est mentionné de ne pas avoir peur, il est mentionné de ne pas craindre. C'est quasiment un n'ayez pas peur par jour. Alors ce qui est bien quand même, c'est vraiment. Dieu nous encourage tous les jours à nous dire n'aie pas peur, je suis avec toi. Et puis, comme d'habitude, on peut recommencer à relire les passages qui nous disent n'aie pas peur. 365 mentions de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, parce que Dieu est avec nous. Vous savez, la clé de la victoire, c'est de ne pas se laisser emporter par nos peurs, mais de s'attendre à Dieu. Lorsque l'angoisse d'une situation sans issue nous saisit, attendons-nous à l'intervention divine. Lui qui a manifesté tant de miracles sous les yeux du peuple au travers des plaies d'Égypte, c'est le même qui va les délivrer de cet étau. On a lu au début du passage, le peuple est sorti d'Égypte, la main levée, c'est-à-dire comme des champions. Ils sont sortis, ils vont aimer notre Dieu. Et puis dès que l'ennemi est arrivé, dès qu'ils ont vu ça, tout de suite, ils n'avaient plus la main levée, ils laissaient le recours. Sauve-nous, on retourne en Égypte. Ce Dieu qui a manifesté tant de miracles par les plaies d'Égypte est le même Dieu qui les a conduits vers le taux pour manifester sa délivrance et sa libération. C'est Dieu qui va terrasser l'ennemi. C'est celui qui a agi tout au long de ta vie. C'est celui qui va encore te délivrer aujourd'hui. Amen. Vous savez, lorsqu'un quelqu'un demandera comment un homme pourrait-il se sauver, Jésus répondra qu'à l'homme c'est impossible, mais qu'à Dieu tout est possible. Il est impossible à un homme d'ouvrir la mer, mais Dieu, pour lui, c'est possible. Dieu va donner cette consigne à Moïse de faire se lever le peuple et de marcher en direction de la mer. Imaginez-vous humainement, vous voyez là vous pointer, là vous allez partir en vacances à occuper la semaine prochaine. Vous allez l'avancer vers la mer, vous savez, il ne va rien se passer. Hein. La mer n'est pas, les vagues à la limite peuvent vous ramener sur un peu de courant quand vous essayez d'avancer. Pour eux, c'est impossible d'ouvrir la mer. Mais lorsque Dieu déclare que la mer va s'ouvrir, elle va s'ouvrir. Et c'est exactement ce qui prend place dans ce passage. Dieu va dire à Moïse d'aller vers la mer, de conduire, de que le peuple reprenne sa marche, arrête d'être paralysé par ses peurs, mais de remettre en marche vers l'adversité et il va opérer le miracle. Dieu demande à Moïse de mettre son bâton, de prendre la mer avec le bâton, et c'est ce qui se passe. Et mon cinquième point ce matin, justement, c'est que dans ces situations, Dieu intervient en personne en notre faveur. Exode 14, 19 à 21. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta ses positions et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se passa entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était obscure d'un côté, mais de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel reçut dans la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il en sécha la mer et l'eau se partagea. Ces quelques versets nous montrent trois façons de comment Dieu est présent personnellement dans cette situation et comment il va agir dans cette histoire. Premièrement, on mentionne l'ange de Dieu, celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Dans la Bible, c'est ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation visible de Dieu qui intervient dans une situation. Ensuite, on nous parle de cette colonne de nuée. La nuée symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Cette nuée qui le conduisait le jour et qui transformait en feu la nuit pour éclairer le peuple. Cette nuée, cette présence de Dieu était avec le peuple à ce moment-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu se place personnellement comme le bouclier entre les Égyptiens et le peuple hébreu. C'est assez fort quand même que cette même présence de Dieu, elle aveugle les Égyptiens d'un côté, elle les plonge dans l'obscurité et elle éclaire le peuple de Dieu de l'autre côté. Ça veut dire que celui qui était devant eux pour les diriger, c'est aussi celui qui était derrière eux pour les protéger. Celui qui était devant eux pour les conduire était aussi celui qui était derrière pour prévenir de l'attaque de l'ennemi. Vous voyez, une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on a un avantage sur les Hébreux. Là, Dieu marchait à leur côté. Et la Bible dit que pour nous, croyants du Nouveau Testament, Dieu ne marche pas simplement à nos côtés, Dieu vit en nous par son esprit. Celui qui a créé les cieux et la terre a choisi de faire sa demeure en chacun d'entre nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, bien imparfait. Mais il a choisi des personnes imparfaites pour faire résider sa gloire. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est celui qui se tient avec nous ce matin. Celui qui se tient en nous ce matin dans ce lieu. Face à toutes les difficultés que nous pouvons vivre. Face aux défis de la vie que dont nous sommes tous confrontés. Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Le lieu où Dieu te dirige est aussi le lieu où il t'assure de sa présence et de son secours. Le lieu où Dieu te dirige est aussi le lieu où Dieu t'assure de sa présence et de son secours. On va conclure ce matin avant que vous demandiez de s'approcher. Enfin, justement, on va nous raconter comment les Israélites ont traversé la mer à sec. Et lorsqu'ils ont fini de traverser Moïse tout seul de nouveau la mer, qu'ils se refermaient sur l'armée du Pharaon et qu'ils les engloutissent tous. Exode 14, 27 à 31, on saute quelques versets. Moïse tendit sa main sur la mer. Le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, et l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit le char, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul à rescaper. Quant aux Israélites, ils montèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage. Et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Ce matin, ce message est un message d'encouragement à nous attendre à Dieu et à lui faire confiance. Même si on a l'impression que Dieu nous conduit dans une impasse, que Dieu nous conduit dans un trou creusé dont on peut pouvoir se sortir, c'est à cet endroit que nous pouvons être spectateurs de l'intervention de Dieu. C'est à cet endroit que nous pouvons être aussi en action avec Dieu pour participer au miracle qui veut faire prendre place dans nos vies. Vous savez, c'est dans les lieux, dans les circonstances trop difficiles pour nous, que Dieu peut manifester sa gloire dans nos vies. Et nous faire vivre dans la prière. Si on sait faire une vie comme tout le monde, ben, à la limite, on n'a pas besoin de Dieu. Et pour vivre l'incroyable de Dieu, nous avons besoin de vivre des choses qui nous dépassent humainement, afin que nous arrêtions de fixer les regards sur nos propres capacités, mais nous tenions nos regards vers celui qui est capable de prendre la mer en devant nous. Ne cherchons pas, mes amis, de zone de confort pour notre vie chrétienne. Les zones de confort n'existent pas en dehors de Jésus. mangeuse. Il est là où nous conduirons. Faisons-lui confiance. Croyons ensemble en l'impossible. Et nous sommes nous verrons le cœur de Dieu. Amen. Je te remercie ce matin alors qu'on est pris un temps. Et ce matin, tu prends comme dans un auto. Si tu es accaparé par une situation lourde et difficile et qui dit que tu n'es pas capable de retrouver cela et de me terrasser. Seigneur, je te dis que ce matin, tu n'as pas pour rien que tu aies un peu ton ne cherche pas les explications des pourquoi du comment. Je sais que là où tu es, dans cette étoile, coincé face à la mer, avec ce désert et cette armée qui arrive derrière toi, tu dis nous suivrons. Le Seigneur veut intervenir dans cette situation ce matin au nom de Jésus. Il veut te libérer de cette situation. Il veut te faire découvrir la puissance de sa gloire. Ne cherche pas à vouloir créer et maîtriser les choses de Dieu. C'est Dieu qui décide où le miracle et comment le miracle va prendre place dans ta vie. Et ce matin, c'est ton cœur qui va simplement être debout à ta place. Alors qu'on va prendre conscience de ce que l'on attend. Il y a peut-être une proclamation ce matin. Il y a des doutes et des peurs qui veulent nous envahir. On veut proclamer ce matin, Seigneur, qui est la porte qui va nous sortir. Et c'est le cœur qui nous invite à faire comme le peuple, quand Moïse leur a demandé de se reprendre. De toutes ces peurs et ces craintes et de se mettre en marche dans la terre. Maintenant, ça vous demande de vous sortir de vos droits et de vous avancer comme un signe au ciel pour découvrir ce que vous faites. Venez se mettre devant ensemble et dire Seigneur, tu es ma force. On va prendre son temps ce matin de croire que Dieu veut intervenir, de dire que c'est possible de croire les mensonges de l'ennemi, les doutes, les peurs qui sortent en vrai, ce que Dieu a prévu pour moi. Mais ce matin, je me positionne, je dors.